nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
En cette semaine dédiée à l'Europe, nous retrouvons Jacques Pogam en compagnie du secrétaire perpétuel depuis octobre 2011 de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Michel Zinc, grand philologue et spécialiste de la littérature médiévale des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Ce passage dans lequel Michel Zinc nous présente la vision de l'Europe, de ses espoirs et de ses attentes la concernant, est un extrait de l'émission L'Essentiel avec Michel Zinc.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel, quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Michel Zinc, le plus d'espoir ?
Alors, du coup, je vais démentir ce que j'ai dit pour faire le malin tout à l'heure. Enfin, ce n'est pas seulement pour faire le malin, mais il me semble tout de même que les atteintes à la dignité humaine ou à la dignité de chacun, si on ne veut pas employer de grands mots, sont aussi nombreuses qu'elles l'ont jamais été, pour ça il n'y a pas de progrès, mais elles apparaissent plus qu'auparavant comme insupportables. Elles apparaissent donc plus qu'auparavant pour ce qu'elles sont. Et ça, ça me paraît indubitable. Alors il y a peut-être, selon ma théorie, une contrepartie quelque part qui apparaîtra un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas ne pas considérer que c'est un progrès, et un progrès essentiel.
Donc ça, c'est une chose...
Oui, c'est ça.
Sous réserve d'inventaire,
c'est vraiment...
Mais à l'instant, vous évoquiez, là, c'était extraordinaire ce que vous disiez sur l'enseignement dans les universités, donc au Moyen-Âge, où on voyait en même temps un Italien, un Anglais, un truc...
Oui.
L'Europe ne fait pas partie de vos espoirs aujourd'hui ?
Si, mais je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que l'Europe a beaucoup fait partie de mes espoirs, et d'une certaine manière, ce n'est pas que je trouve que l'Europe, c'est fini, mais je trouve qu'au contraire... D'une certaine façon, l'Europe s'est fait. Dans mon enfance, on disait « Ah, on veut plus jamais se battre. À mon avis, on ne se battra plus. Bon. »
Vous y allez là, carrément.
Une guerre entre pays d'Europe, ça me paraît peu vraisemblable. Enfin, tout peut se produire.
D'accord.
Mais l'Europe a été une déception parce que on a eu l'impression que ce qui était important ne venait pas. Et ce qui était accessoire venait.
Je vous pose cette question-là parce que vous avez publié un texte très intéressant en 2000, vous n'étiez pas seul, hein, Identité littéraire de l'Europe.
Et oui.
Est-ce que l'Europe a existé à travers la littérature ?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui.
Elle, elle s'est définie à travers la littérature aussi ?
Ah oui, oui. Et à travers la vie intellectuelle. C'est-à-dire que
le
Moyen-Âge est une période de guerre constante ou de conflit constant, mais c'est une époque où... D'une certaine façon, l'unité européenne, au moins l'Europe latine, va de soi.
Oui, donc ça s'exprime. Il y a une Europe dans la littérature du Moyen-Âge.
Ah, mais oui.
On la sent.
On la sent. Ce n'est même pas une question d'influence, mais la littérature d'une langue à l'autre dans les langues... D'abord, la littérature latine couvre l'ensemble du domaine européen et est, bon, il y a des variantes, mais enfin, est homogène à travers toute l'Europe. Les littératures vernaculaires se traduisent, s'imitent l'une l'autre et sont très proches. Il y a un moment où le leadership pour parler français est assuré par la littérature de Languedoc et la littérature de langue d'Oïl. Et alors, les Italiens, les Catalans écrivent en Languedoc. Et puis après, ils se mettent à écrire en italien.
Mais est-ce qu'il y aura un Rudebeuf anglais, par exemple, à cette époque-là ?
Eh ben, mais
Il y en a un.
Mais regardez, si Chaucer, c'est l'esprit de Rudebeuf. C'est le même prix. Et un roi de Norvège, alors eux, ils avaient leur saga, tout ça, bon, ça. Mais un roi de Norvège envoie un émissaire dans le sud de la France pour étudier les troubadours, pour lui expliquer ce que c'est. Et un autre fait traduire en norrois systématiquement toute la littérature française. Il y a des œuvres de la littérature française du Moyen-Âge qui sont perdues, mais dont nous avons la traduction
dans le Nord.
Quand on a retrouvé, il y a quelques années, un bout du roman de Tristan de Thomas d'Angleterre, dont nous n'avons que des fragments, eh bien, on a pu l'identifier à coup sûr comme tiré de Thomas d'Angleterre, parce que la Tristram saga norroise est traduite littéralement, et que voilà, c'était ça.
Donc vous pensez que la littérature a vocation à exprimer l'âme d'un pays et l'âme d'un continent même.
Alors, l'âme d'un pays, ça c'est l'idée romantique. Le génie de chaque peuple s'exprime dans ses productions littéraires.
C'est brillant.
Oui, bon, c'est vrai probablement, mais ça dépasse largement un seul peuple. Oui, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la littérature, c'est que c'est quelque chose de tellement concret et qui reflète tellement la vie, les préoccupations, les sensibilités d'un peuple, justement, ou d'un groupe à une époque donnée, Et en même temps, c'est quelque chose d'universel. Enfin, c'est une banalité, mais je cite cet exemple, ça a l'air idiot. Ensuite, j'y suis allé beaucoup, mais je suis allé pour la première fois au Japon, il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a 10-12 ans. Et j'avais peur d'aller au Japon, parce que quand on lit les choses sur le Japon, ça paraît un pays terrible, dur, bon, affreux. Mais j'avais lu, en traduction, hélas, beaucoup de littérature japonaise. Et j'avais une idée totalement différente. J'avais d'une délicatesse extrême, d'une extrême subtilité dans la façon de raconter, d'une façon de raconter à la fois des choses si proches de notre propre littérature, en particulier pour la littérature médiévale, et en même temps si différentes des développements que nous ne ferions pas, des ellipses pas aux endroits où on les ferait, l'inverse, enfin. Et je suis arrivé au Japon, et j'avais l'impression d'être parfaitement à l'aise grâce parce que j'avais lu la littérature.
C'est extraordinaire, ça.
Et oui, cette forme de délicatesse japonaise, j'avais l'impression, pas de la comprendre, c'est un pays où on a toujours peur de faire des impairs, je ne demande pas être élevé. Bon. Mais enfin, j'étais un peu de plein pied grâce à la littérature.
Et donc la littérature, mémoire d'une identité, comme l'architecture aussi, quand même, d'une certaine façon.
Oui, oui.
C'était Michel Zinc, philologue, professeur au Collège de France et secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui, en compagnie de Jacques Pogam, a évoqué pour nous sa vision de l'Europe unie par une très riche tradition littéraire commune. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'intégralité de l'émission « L'essentiel avec Michel Zinc », émission dans laquelle le journaliste Jacques Pogam pose 7 questions essentielles à ses invités académiciens.